Maintenant, un bon podcast.
Maintenant, un bon podcast.
Et maintenant, un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous, toujours en direct du Corsaire Ludique 2010. Et j'ai le grand plaisir, enfin, de rencontrer Hervé Marly. Bonjour Hervé.
Bonjour Nicolas, le plaisir est pour moi.
Ah, ça c'est chouette. Hervé Marly, en fait, si vous regardez un peu les boîtes des jeux les plus célèbres que vous avez à la maison, ben, vous vous rendrez compte que il est à l'origine de Loup-Garou avec Philippe Despalières et il est aussi à l'origine d'un jeu un peu atypique avec des livres et des histoires qu'il faut raconter qui s'appelle Petit Meurtre et Fait Divers. Alors Hervé, est-ce qu'on peut reprendre, pas ta naissance parce que d'un point de vue ludique... ça n'ira pas, mais en tout cas l'histoire de Loup-Garou, la rencontre avec Philippe Despalières peut-être, et comment a démarré ton parcours ludique.
Ok, alors les Loup-Garou, donc ça a démarré avec Philippe Despalières parce qu'on avait vraiment envie de développer ce jeu qui nous avait été présenté par Bruno Feduti dans sa version Mafia, et on a décidé de tenter l'aventure en développant tout l'univers qui a maintenant autour des Loup-Garou Tiercelieu, avec des personnages différents et en formalisant les règles d'une façon super directe, super concrète et avec un minimum de bafouillage. Hein. Et le succès a été, nous a complètement dépassé. Ouais. Jamais on n'aurait pensé que ça allait marcher aussi bien. Et sans doute que les éditeurs avec qui on a proposé le projet ne le croyaient pas non plus. Et maintenant, c'est un peu tard, bien entendu, ouais, pour eux.
Et là, on parle de quelle année ?
2001, oui.
Donc là, on ne parlait pas encore autant du jeu que maintenant. Il n'y avait pas autant d'événements comme ici, par exemple. Enfin, 2001, c'était le premier Corsaire ludique, on va dire.
C'était vraiment le départ de quelque chose qui s'est concrétisé comme existant vraiment, comme une activité populaire, culturelle populaire. À l'époque, on était encore cantonnés comme des petits monstres de foire, des grands attardés... tu te rends compte des adultes qui se réunissent pour pousser des bouts de cailloux ou alors des morceaux de carton et qui s'y croient.
Oui, voilà.
En plus, ça paraissait totalement incongru. La plupart du temps, les gens disaient « mais t'as pas autre chose de plus intelligent à faire ?»
C'est ça ton vrai métier ?
D'avoir des trucs intelligents à faire.
Et alors, donc, succès énorme. Est-ce que quel était ton parcours avant ? Tu étais joueur et puis tu t'es dit « bon, ben, on y va, on se lance ».
Alors voilà, le joueur, je l'ai toujours été, en fait. Je ne pourrais pas vraiment donner de date de début de naissance de cette passion. J'ai toujours aimé me déplacer dans des univers particuliers. Donc forcément, la littérature fait partie de ça. Mais ce qui est bien, c'est que les jeux, tu peux en fait intervenir et vivre ces aventures-là. Donc je suis passé par le jeu de rôle. Ensuite, je suis passé par du théâtre d'improvisation. Ce qui, évidemment, paraîtra logique par rapport à Petit Meurtre et Fait Divers. Hein, qui est une adaptation du principe de l'improvisation théâtrale. Et au fur et à mesure, en fait, je crois que c'est un parcours extrêmement classique pour un auteur de jeu qui pourrait être comparé à celui d'un écrivain, par exemple. C'est qu'on commence à jouer, on joue beaucoup, de plus en plus. On connaît, on admire énormément les mécanismes et les auteurs de jeux. Et on commence à écrire des variantes sur les jeux qu'on admire. Puis à force de faire des variantes qui tournent, on se dit, après tout, pourquoi pas essayer de faire un jeu. Et puis voilà, c'est parti comme ça.
Alors justement, passons à l'improvisation avec Petit Meurtre et Fait Divers. Jeu atypique qui ressemble à un morceau d'étagère qu'on a acheté. Voilà, il y a des livres, il y a des mots, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? C'est quoi l'histoire de ce jeu-là ?
L'histoire de ce jeu-là, c'est parti d'un jeu que j'aimais beaucoup, que j'ai plus trop le temps de pratiquer, qui est très connu, qui s'appelle Il était une fois. Et j'avais envie d'utiliser quelque chose qui ressemble à Il était une fois, mais dans un thème policier pour mener une enquête. Au début, c'était quelque chose qui était très sérieux, en fait, une vraie enquête policière. Et donc, c'était un peu chiant sur les bords. Et je me suis dit, mais il y a un parallèle à faire avec le théâtre d'improvisation où on travaille avec des contraintes. Et les contraintes, donc, je les ai introduites dans le principe d'Il était une fois, avec des enquêtes totalement délirantes. Et les mots obligatoires, hein, donc, qui sont les contraintes. Et ces contraintes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et c'est valable pour le théâtre d'impro, ne sont pas là pour faire obstacle à la construction d'une histoire, bien au contraire, pour s'appuyer dessus. Et après, le challenge, évidemment, c'est de dissimuler ces mots pour le coupable et de passer inaperçu aux yeux de l'inspecteur. Franchement, j'ai pris un grand plaisir à écrire ces histoires. Le fait est que les 50 dernières étaient relativement... difficile à sortir parce que j'avais tellement exploré de choses bizarres et d'événements insolites que d'en trouver des nouveaux sans faire de redites, c'était un peu complexe. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai imaginées qui me paraissaient totalement loufoques, qui sont avérées être vraies et avoir vraiment existé.
Ça, c'est faux. Ouais. Ok, donc ça, c'est Petit Meurtre, Effet Divers. C'est sorti chez qui, ça?
C'est Asmodée qui l'a fait et ils ont fait un super boulot. En fait, ils sont repartis sur le principe des livrets. Parce que je voulais vraiment avoir une idée de collection de romans policiers.
Hein. Ouais, ça fait très série noire. Hein.
Voilà, exactement, série noire. Alors, moi, j'aurais voulu encore plus un look série noire, mais il se trouve que ça risquait d'être un peu compliqué au niveau des droits, à l'image. Enfin, je ne sais pas comment ça aurait été géré, mais là, en tout cas, le coffret est vraiment superbe. Mmh. Les logos, tout est bien, quoi. Moi, ça me plaît. Le titre, par contre, je l'avais depuis le début.
Ouais, c'est ça.
Et ils m'ont vraiment, vraiment accompagné. C'est Croc hein, qui voulait le faire.
Ok, donc ça c'est les deux jeux connus, mais j'ai vu sur les deux jours qui viennent de se passer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Est-ce qu'on peut peut-être soulever un coin du voile?
Alors, le premier voile est facile à lever puisqu'il s'agit du Fictionnaire, alors qui est aussi une variation d'un jeu que j'adore, qui est le jeu du dictionnaire. Mais le jeu du dictionnaire, je lui reprocherais d'être un jeu un peu élitiste entre parenthèses, puisque le principe, c'est de sortir un mot d'un dictionnaire et de chacun écrire une définition qui paraisse être la vraie définition. Mais il faut quand même avoir un certain talent littéraire pour être capable de sortir en un temps limité une définition dans un français correct, et qui plus est, un français laroussien ou robertien, ce qui n'est pas donné. Et puis, c'est encombrant, il faut un dictionnaire, et ainsi de suite. Là, le principe, c'est que c'est entièrement oral, que la réponse est connue par les joueurs qui vont donner la réponse, puisqu'elle est inscrite sur la carte, et que le choix qui va être fait par le joueur, c'est soit d'inventer une définition totalement fantaisiste, ou de donner la vraie. Avec des petites contraintes, encore une fois, au sujet de mots obligatoires ou interdits. Hein. Mais bon, je ne veux pas aller trop dans les détails. Et pour aider un petit peu à développer le côté délirant du jeu, et ça, j'aime beaucoup les côtés délirants des jeux, bien entendu, c'est que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la recherche de faits, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un mot à décrire, mais d'une proposition d'événement qui s'est passé quelque part, ou une description d'une technologie, ou des choses un peu complexes.
Tu peux avoir un exemple?
Alors voilà. Maintenant, là, je suis pris... Alors, par exemple, de quelle façon un constructeur d'avions américain testait-il ses prototypes futurs d'avions? Pour que chacun puisse, même s'il n'a pas une connaissance parfaite du monde technologique, et qui puisse se permettre de donner une réponse valable, j'ai cherché une réponse qui est complètement qui paraît crétine.
Ouais.
Et la vraie réponse, c'est qu'il utilisait des avions en papier,
qu'il
faisait dans son petit bureau, et qu'il aimait... Alors, du coup, chacun peut se permettre de se lâcher complètement.
Ouais.
Et ce qui est assez amusant, c'est que dans ce jeu, donc, si je me peux me lancer des fleurs, c'est que la plupart du temps, la réponse est tellement délirante qu'on ne la choisit pas.
Oui, ouais, tu dis que la réponse... Enfin, oui, c'est une proposition que tu inventes et tu imposes la réponse qui n'est pas spécialement historiquement correcte.
Si, elle est totalement historiquement correcte. D'accord. Toutes les réponses sont historiquement correctes. Je me suis vraiment bien documenté sur divers supports informatiques ou encyclopédiques. Elles sont toutes vraiment exactes, mais elles paraissent totalement... J'en ai une autre qui est terrible. Est-ce que tu sais comment font les antilopes qui s'appellent Élan du Cap pour séduire les femelles et augmenter leur harem?
D'accord. Non.
Non. Alors, je pourrais dire, par exemple, que les mâles font pipi sur l'herbe pour attirer les femelles.
Trop classique.
Trop classique. Qu'ils brament ou qu'ils font des cris avec leurs oreilles, en les bougeant très rapidement comme ça. Ou qu'ils craquent des genoux, par exemple, ou bien que simplement ils ont des sonorités agréables en provenance directe de leur arrière-train.
D'accord. On va prendre les oreilles.
Eh ben non, c'est ils craquent des genoux.
Et voilà.
Voilà.
Excellent.
Donc ça donne vraiment des gros, gros délires.
Ouais, tout à fait. Ok. J'ai vu qu'il y avait plusieurs paquets, donc il y a plusieurs thèmes.
Voilà, ça, il y a une collection de 4 thèmes différents. Chaque paquet comporte 120 questions. Et réponses, bien entendu. Alors, il y a un paquet qui est plus orienté vers les sciences naturelles, un paquet qui est plus orienté vers la technologie, un paquet plus orienté dans la vie habituelle, la vie de tous les jours, et un autre plutôt historique. Mais de toute façon, c'est absolument pas destiné aux universitaires. Hein, voilà.
Et là, on est chez Days of Wonder.
On est chez Days of Wonder, qui, pareil, on a fait un boulot superbe. On a choisi de prendre le look d'un paquet de clopes parce qu'en fin de compte, ça permet de transporter des cartes très facilement, et en plus le mécanisme du petit rabat qui est sur le couvercle permet de dégager la carte qui est en jeu, de rabattre le couvercle derrière pour faire circuler le paquet sans être embêté, sans voir la réponse. Et la réponse, en glissant la carte, apparaît aux joueurs qui, eux, vont donner la réponse. Donc c'est vraiment une décision extrêmement réfléchie pour améliorer la mécanique du jeu. Hein. C'est pas... Après, il y a le clin d'œil, bien entendu, hein, du look, mais c'est pas par hasard, en fait.
Okay. Mm. Bien, et ça, c'est déjà sorti, effectivement. Mais alors, il y a une autre chose. Donc là, on va vraiment soulever le coin du voile. C'est un jeu que je devais te laisser décrire, vu que tu es le maître du secret.
Voilà. Alors, c'est un jeu qui sortira l'année prochaine. Il est en cours de finalisation. Il va être édité... Ah oui, pardon. C'est le Packet Club, mais c'est un vrai Packet Club. Donc, si tout va bien, c'est les éditions lui-même, Philippe Despalières, avec qui on a fait les loups-garous, qui va le sortir. C'est un jeu de bluff. Et de double guess. Le double guess, qu'est-ce que c'est? C'est je sais que tu sais que je sais, donc je vais faire ça. Mais comme tu sais que je sais que tu sais que je sais, je ne vais peut-être pas le faire. Donc c'est un jeu de bluff et de prise de risque pour essayer de réussir des défis consistant à retourner des cartons disposés par les joueurs. Et dans les cartons que tu retournes, il ne faut surtout pas tomber sur un carton qui représente une tête de mort, parce que dans ces cas-là, tu as raté ton défi. Mais bien entendu, le bluff, ça consiste à placer exprès une tête de mort parmi ses propres cartons, mais de lancer un défi quand même. Pour dire, ben vas-y, viens chez moi, tu vois, regarde, j'ai fait un défi. Et puis évidemment, si ça se fait bien, le gars il tombe dans le piège, il vient chez toi et il perd.
Okay. Voilà. Donc on se retrouve autour de la table, on a des cartes à mettre sur la table et on essaye de pousser les autres à faire une erreur. Qu'est-ce qui te plaît dans cette mécanique-là? D'où est venue cette idée-là?
C'est une idée très 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 ancienne, ça fait 12 ans que je travaille sur ce jeu. Alors évidemment, quand on voit le jeu tel qu'il est maintenant dans la version définitive, on va dire mais c'est tellement évident que je ne comprends même pas comment quelqu'un peut mettre 12 ans pour... Ben oui, mais alors voilà, le problème des jeux à règles hyper simples, c'est que ne changer qu'une virgule change la physionomie du jeu. Donc chaque mécanique, ça a été un petit pas d'avancer vers quelque chose qui me semble maintenant à peu près abouti. Et moi, là, c'est le côté bluff qui me plaisait énormément. Je me suis dit ce que je voudrais faire en fait, voilà. C'est donner aux gens qui me détestent le poker les mêmes sensations de prise de risque et de réussite.
Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, on retrouve bien cette pression-là pour y avoir joué. Le jeu n'a pas encore de nom, on ne lui donnera pas de nom pour l'instant.
Non. Alors, il a eu plein de noms. Ouais. Je l'ai appelé la roulette russe, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres projets de roulette russe, puis en même temps, ça fait un peu peur. La roulette moldave, parce qu'une variante du poker s'appelle la roulette moldave.
D'accord. Hein?
Enfin non, pas la roulette, l'ascenseur moldave.
Ouais.
Voilà, donc par gag, j'ai appelé comme ça, mais bon, c'est pareil, ça ne marchait pas. Donc là, grâce à Philippe Despalières, à Marc Nunes et au brainstorming qu'on a eu ensemble, on a un thème qui est vraiment super, que j'adore totalement. Mm-hmm. Ouais, je suis très, très, très content. On n'en parle pas.
D'accord.
Non. mais franchement, ça colle super bien au thème.
Ouais,
je suis super content. Et il faut savoir que c'est un jeu avec que 24 cartes.
Ouais, fait.
On a 4 cartes chacune, très transportable, on peut jouer à peu près n'importe où. Et je me dirais, je vais croiser les doigts là, ça se voit pas évidemment. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans la première boîte des loups-garous, il y avait 24 cartes également.
Donc, on va pas dire que la boucle est bouclée parce qu'on souhaite que Hervé Marly fasse encore des jeux. Mais voilà. Donc, tendez l'oreille et laissez traîner vos yeux. Vous le reconnaîtrez une fois qu'il aura un nom. Je pense qu'on est déjà suffisamment dans le futur. Ou bien il y a d'autres choses qui traînent.
J'en ai vraiment. J'ai chez moi une chambre secrète avec tous mes projets, mes prototypes et des petits tiroirs avec les idées qui me trottent dans la tête, sur lesquelles je reviens ou je laisse un petit peu reposer, comme en cuisine. Hein, tu mélanges les ingrédients, tu attends que la pâte repose et puis tu dis ah, mais pourquoi j'ai mis ça? Je l'enlève. Alors là, on peut l'enlever. Dans la cuisine, c'est dur d'enlever du sel quand tu as trop mis de sel. Donc là, oui, j'ai vraiment plein de trucs. Hein.
C'est ça la logique d'Hervé Marly, c'est d'avoir des idées, de laisser maturer, il n'y a pas de précipitation.
Alors bizarrement, c'est l'idée générale, mais il arrive que des idées que j'ai fonctionnent assez rapidement tout de suite. Bah, par exemple pour le fictionnaire en fait, hein, ça s'est passé comme ça. Une soirée entre amis, j'amène le proto et puis Adrien Dodez était là, il me dit arrête tout je le veux et puis on a continué à travailler dessus après pour le finaliser parce qu'il n'était pas encore définitif, mais globalement celui-là, l'idée m'est venue assez rapidement.
Bien, merci Hervé. On se retrouve certainement lorsque cette chose avec du bluff dedans et ressortira. Et donc on en reparlera avec un vrai nom et un vrai thème.
Alors je te remercie pour cette interview. Et par contre, je voudrais dire toute mon affection pour tous les joueurs. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais été déçu par les gens que j'ai rencontrés qui sont passionnés par les jeux. Je les trouve vraiment formidables. Et je voudrais bien qu'ils comprennent qu'ils font partie, entre parenthèses, c'est une activité culturelle. Hein, il faut vraiment, vraiment pas avoir honte d'être un joueur. C'est une activité extrêmement honorable.
Ouais. Avouez-le et tenez, soutenez le regard.
Ouais, exactement.
Merci Hervé. Ok.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.